une femme de tête, une femme qui a de l'expérience en gestion, qui me parle d'un problème dans son hôpital et qui me dit quasiment la voix tremblante, dites pas mon nom. Faut pas que vous disiez mon nom. Et ça, ça revient constamment dans les communications, que ce soit ici à la station, que ce soit dans ma messagerie à la presse. On veut me raconter des trucs, mais on veut pas me dire... des fois, on me dit le nom, là, mais on veut pas que le nom soit révélé. Et encore plus, parce que quand on donne le nom, souvent, il y a une chasse aux sorcières qui commence. On veut savoir qui a parlé. Donnez pas d'informations qui pourraient permettre de me retracer. Tu penserais... Quand on voit l'état de l'école, quand on voit l'état des services publics, des hôpitaux, tu penserais que les gestionnaires ont autre chose à faire que de se lancer à la chasse à ceux et à celles qui osent parler. Et ils n'inventent pas des choses. On vérifie ces affaires-là. On fait des appels. On essaie de voir si ce qui est évoqué est faux. Quand des profs m'écrivent que dans leur école, il se passe telle affaire, il manque de tel ou tel service. Quand des médecins me disent, écoutez, je constate que l'administration me bloque dans ma prestation de service pour tel motif, bien, on fait des appels, on vérifie. Donc, tu penserais que les gestionnaires des services publics ont autre chose à faire que de traquer comme ça les employés qui veulent décrire le réel. Règle générale, les administrations aiment pas ça. Quand les employés parlent, le sillon pour la communication est très, très étroit. Et ce que font les employés, c'est, les employés vont dire, écoutez, je vais vous parler, mais donnez pas mon nom. Ou je vais vous parler, mais dites pas où je travaille. Je vais vous donner un cas qui est absolument ahurissant. Il y a quelques années, j'avais pas fait cette histoire-là, j'ai pas fait cette chronique-là. Il y a quelques années, il y a une femme qui réagit à des propos que j'ai tenus sur l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ça se passe dans l'Est du Québec. Donc, elle a une interaction absolument malheureuse avec un psychiatrisé. Elle traverse la rue et elle croise un homme. En fait, on lui a raconté ce qui est arrivé parce qu'elle s'en souvenait plus. Elle croise un homme en traversant au feu rouge et il y a un psychiatrisé qui envoie un coup de poing sur la gueule. Commotion cérébrale. C'est grave, fracture, etc., etc. Elle met des mois à se remettre sur pied. Et réagit à une chronique que j'ai écrite là-dessus, où je dénonce justement le fait que on remet n'importe qui, n'importe comment à la rue après des épisodes de crise de santé mentale, et il y a ces interactions malheureuses. Et elle me raconte son histoire. Je fais l'entrevue. Je suis même prêt à aller la voir à Québec pour la rencontrer. Et elle me rappelle, encore une fois, comme les autres, soudainement tremblante. Son syndicat lui a dit, fais pas d'entrevue. Fais pas d'entrevue parce que cette femme-là qui avait été agressée en pleine rue, c'était un employé d'un CIUSSS. Ça n'a aucun rapport, cette agression, avec le CIUSSS. Sauf que, là où c'est survenu, c'est sur le territoire de son CIUSSS. Donc, son CIUSSS, dans l'analyse du syndicat, aurait pu penser que dénoncer ce qui s'était passé, c'était une critique voilée des services de santé et de services sociaux prodigués par son employeur. Fait que j'ai jamais fait l'histoire. Mais ça vous donne une idée de l'omerta qu'on peut retrouver dans le réseau. Ça vous donne une idée de l'omerta qui est imposée et de l'autocensure que les employés s'imposent. C'est une autocensure qui est, je dirais souvent, absolue, qui touche même à la sphère privée. Il y a quelques années, il y a des employés du CIUSSS de l'Estrie qui avaient un groupe Facebook privé. C'est pas un groupe Facebook à ciel ouvert, là. Donc, entre eux, ils avaient des discussions reliées à leurs conditions d'employés. Puis des fois, ben oui, des fois, ils avaient des commentaires qui pouvaient être perçus comme une critique de l'employeur. Puis, il faut se le dire, l'employeur est pas parfait. Ben, il y a des gens qui ont été suspendus. C'était pas un groupe ouvert, c'était un groupe fermé, mais il y a quand même eu des sanctions disciplinaires. Autre cas qui me frappe pour les prises de parole comme ça des employés du secteur public. Il y a quelques années, je fais une chronique sur Katia Dufault. Katia Dufault, c'était une enseignante d'expérience, une enseignante de français au secondaire, secondaire 2, et elle m'a raconté à quel point son quotidien était difficile, mais dans le détail. Et elle l'a fait à visage découvert. Elle m'a raconté le manque de moyens à sa disposition. Elle m'a raconté comment on stationne dans sa classe des élèves en grande difficulté d'apprentissage ou de comportement qui auraient dû être en classe spéciale. Elle m'a raconté aussi le niveau catastrophique de ses élèves en français. Je vous l'ai dit, elle enseignait le français secondaire 2. Et elle m'a montré, sans identifier les élèves, mais elle m'a montré des papiers qu'elle avait, des documents, pour montrer le dernier niveau de français réussi par certains élèves. Il y a certains élèves dont le dernier niveau de français réussi était la sixième année, la cinquième année, la quatrième année, et même dans un cas, la troisième année. Ce que ça illustrait, c'est à quel point notre système scolaire médiocre encourage la médiocrité en faisant passer des élèves qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les compétences. C'est comme ça que tu arrives au cégep avec des élèves, by the way, qui deviennent des cégepiens qui écrivent au son. Ça aussi, c'est dénoncé par les profs de cégep qui ont une plus grande latitude pour dénoncer, je dirais. Cette prof-là, Katia Dufault, m'avait montré sa réalité, m'avait montré la vérité, dans le fond. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été congédiée. Pas suspendue, pas une note au dossier, pas on recommence plus, elle a été congédiée. Ce que ça fait, c'est que ça fait un exemple. Ce que ça fait, c'est que ça envoie un message à tous ceux, à toutes celles dans le service public qui seraient tentés de parler. Faites ça, puis vous allez avoir du trouble. Vous allez avoir du gros trouble. Et c'est un des outils à la disposition de l'État, un outil dont on ne se vante jamais. Mais, faut le dire, moi, ça fait des années que je couvre ça, que je couvre la santé, que je couvre l'éducation, les services publics en général. Le système va tolérer de donner de mauvais services. Le système va tolérer de te laisser mourir sur une civière aux urgences. Le système va tolérer de te faire progresser jusqu'au cégep alors que tu n'es pas capable d'écrire « ça va » avec un C, C, D plutôt qu'un S. Ça, le système n'a aucun problème avec ça et personne ne va perdre sa job. Mais si tu dis que le système, alors que tu es un rouage du système, ne fait pas sa job, tu vas en payer le prix.
Sensation Plus. Des articles coquins pour pimenter votre quotidien. Découvrez tous nos produits érotiques pour couples dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Dégâts d'eau ou de feu pour tout nettoyer. Calinex pour tout décontaminer. On peut s'y fier.
Voici vos nouvelles du 15 mai 2024. Le comité en faveur du prolongement de l'autoroute 20 organise un rassemblement citoyen à Saint-Fabien le samedi 25 mai prochain à 13h. L'activité aura lieu sur le thème « On veut la 20 ». Le rendez-vous est fixé sur la rue industrielle de Saint-Fabien, près de la Ferblanterie et des cuisines Paul Aubic. En cas de mauvais temps, l'activité de mobilisation se tiendra au pavillon des loisirs. Les organisateurs précisent que le but de l'événement est de démontrer de la solidarité envers les gens qui sont affectés directement par l'absence de l'autoroute, notamment ceux qui vivent le long de la route 132, les usagers et les intervenants économiques. La Société nationale de l'Est du Québec remet le prix Patriote de l'année à la scientifique et vulgarisatrice Lynn Morissette. Le mouvement patriote du bas du fleuve et la Société nationale de l'Est du Québec invitent d'ailleurs la population à participer à la 14e grande marche des patriotes de Rimouski qui se déroulera ce dimanche. Le rassemblement aura lieu à 13h30 au parc de la gare. Le départ de la marche se fera à 13h45 en direction du centre communautaire Saint-Robert où se dérouleront les festivités. Des syndicats, des élus et des groupes communautaires dénoncent la fermeture de 10 comptoirs et centres de services de Desjardins dans la région. Il mentionne que le mouvement coopératif doit revenir à sa base et entamer un dialogue constructif avec la société civile afin d'offrir un service de qualité. Une manifestation contre la fermeture de la caisse de Saint-Gabriel aura lieu le 20 mai, jour de la fête des Patriotes, à 10 heures. Et la saison 2024-2025 de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire célébrera ses 30 ans avec une programmation originale, diversifiée et accessible. Les dates à retenir sont celles de 5 concerts, les 2 novembre, 7 décembre, 5 avril 2025, 10 mai 2025 et 28 juin 2025. Des artistes invités, dont Lorraine Desmarais, le trio Hochelaga, la chorale du Conservatoire, l'Orchestre des jeunes du Québec maritime et la harpiste Véronique Milo seront de la partie. La salle de jardin TELUS et le jardin de Métis accueilleront les concerts. C'était Pierre Michaud pour vos informations.
Fait, livré. CFIX 93, son équipe et le studio McDonald's, un trio de champions. Art et spectacle.
Le Québec maintenant.
16h41, Kim Thuy, c'est une de nos grandes autrices. On l'associe bien évidemment à la littérature. On peut l'associer à la bouffe. Elle a publié un livre de recettes sur les recettes de son pays d'origine, le Vietnam. On peut l'associer aussi à la télévision. Je pensais pas un jour associer Kim Thuy et le zoo de Granby, mais pourtant, Kim s'est associée au zoo de Granby. Elle est au bout du fil. Kim Thuy, salut!
Allô! Et pourtant, c'est une évidence.
Ben, comment
parce
ça?
Parce que Granby, c'est ma ville de naissance, la deuxième naissance. Ma naissance au Québec, c'était à Granby. Puis, tu sais, quand on pense à Granby, on pense à quoi? Au zoo de Granby.
Bien sûr!
Puis je suis allée tellement souvent parce que les familles qui nous recevaient nous aimaient tellement qu'ils nous emmenaient le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche, trois familles différentes. Puis on a fait ça pendant tout un été, durant la première année qu'on était ici au Québec. Alors, disons que les animaux et moi, on se reconnaissait là, à la fin. Là.
Bon, tu reconnaissais peut-être les singes, les girafes, mais je te connaissais pas, Kim Thuy, cette passion, cet intérêt pour le zoo de Granby. Et là, tu deviens ambassadrice de la mission Faune du zoo de Granby. C'est quoi ça?
C'est pas vraiment pour le zoo, ça, non, mais le travail du zoo, c'est-à-dire le travail des chercheurs et des scientifiques au zoo. Il y a 90 chercheurs et spécialistes et experts en toutes sortes de choses qui travaillent derrière, entre les murs, derrière les murs. Et ils font, pour moi, c'est un travail tellement invisible, on n'en parle pas assez. Donc, je suis juste chanceuse, en fait, d'avoir le titre pour pouvoir en parler officiellement. Mais quand j'ai rencontré Julie Hébert, c'est quelqu'un qui travaille au zoo, elle nous a expliqué la mission du zoo, c'est-à-dire prendre soin des animaux qui sont fragiles, qui sont vulnérables, qui sont en voie d'extinction, et travailler avec d'autres zoos pour les rendre moins vulnérables. Par exemple, ici, juste au Québec, il y a une sorte de tortue qui est très fragile, en voie d'extinction, et donc ce que le zoo de Granby fait, c'est qu'il y va pour ramasser les œufs durant la saison, les ramener au zoo, les faire éclore au zoo et les remettre les individus dans l'eau par la suite, tu vois? Parce que sinon, si tu le laisses dans l'eau, ben ils vont se faire manger, puis ils sont trop peu nombreux pour pouvoir survivre. Et donc, on travaille sur la biodiversité, on travaille sur l'écosystème, et on a besoin de toutes ces espèces pour retrouver l'équilibre. Les habitats naturels ont été enlevés à cause de nous, je dirais, et les changements climatiques fragilisent tout cet équilibre-là. Et le zoo travaille avec les autres autres zoos dans le monde. Toute leur mission est complètement différente que la première mission. Là, quand on a ouvert le premier zoo, là, c'était pour exposer des animaux. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est vraiment pour les protéger.
Kim, tu parles de protéger, mais quand même, il y a des animaux qui sont dans des zoos qui sont, il y en a qui sont en voie de disparition. Il y a quand même un débat sur le caractère éthique des zoos. L'animal qui est